Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. C'est toujours avec joie que je reçois le docteur Gérard Roussel. Nous aimons ses chroniques et aujourd'hui, il évoque la glande thyroïde. Nous savons que la glande thyroïde est un peu le gendarme de régulation corporelle et quand cette glande se dérègle, eh bien, de nombreux problèmes peuvent surgir. Docteur Roussel, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, la fois dernière, vous avez évoqué la thyroïde, mais avec une forme d'insuffisance thyroïdienne.
Oui, l'hypothyroïdie.
L'hypothyroïdie. Alors, peut-être revenez un petit peu sur cette forme pour après embrayer sur l'hyperthyroïdie.
Alors, parce que nous n'avions pas eu le temps d'évoquer les causes de l'hypothyroïdie.
Voilà.
Donc, les hypothyroïdies les plus fréquentes sont primaires, donc elles atteignent directement la glande. En règle générale, la plus grande partie sont ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que l'organisme fabrique des anticorps qui agressent une partie de notre corps.
Nous-mêmes. C'est nous-mêmes, oui. Nous nous rendons malades
et
nous-mêmes.
La thyroïdite d'Hashimoto, qui a été décrite par un Japonais au début du siècle dernier, est la plus ancienne maladie auto-immune connue, très fréquente, de causes variées et souvent associée à d'autres maladies auto-immunes. C'est un peu compliqué.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de maladies auto-immunes.
Oui. Il y a une forme virale d'hypothyroïdie, dite thyroïdite de Kervin, qui, elle, peut guérir.
C'est lui qui a trouvé ça.
Oui. Il y a des hypothyroïdies post-thérapeutiques, c'est-à-dire après un traitement mal fait pour une hyperthyroïdie, par exemple, ou mal conduit, complication. Bon, ça s'équilibre. Il peut y avoir des hypothyroïdies après traitement par radiothérapie au niveau du cou, pour certaines formes de cancer ou de cancer ganglionnaire. Je pense à des lymphomes, des maladies de Hodgkin, où on irradie les ganglions. Évidemment, la thyroïde peut prendre un petit peu de radiation et fonctionner moins bien quelques années plus tard. Et le manque d'iode par rapport à suffisant. On en avait parlé la dernière fois. Il existe également...
Ça existe souvent, un manque d'iode?
Non, plus actuellement, sauf dans certaines contrées éloignées.
Oui.
Il existe également une forme congénitale, donc présente à la naissance...
Toute la famille a ça?
Non.
Pas forcément.
Non, pas familial, congénital, c'est-à-dire qui s'est formé avant la naissance. C'est pas du tout familial.
Non.
C'est pas héréditaire.
Non.
Cette affection donc est présente à la naissance sans donner de signes cliniques évidents. Elle ne va se révéler que si elle n'est pas traitée par un retard psychomoteur et intellectuel et un retard de la croissance. Son incidence est de 1 sur 3500 naissances.
Ah oui, c'est quand même pas beaucoup.
C'est pas énorme. Depuis 1978, en France et dans beaucoup d'autres pays, le dépistage est obligatoire dès la naissance. Donc, au moment de la naissance, on fait une prise de sang, un prélèvement de quelques gouttes que l'on prend au talon. Vous avez dû certainement voir cela. Et on analyse le sang du nourrisson, enfin du nouveau-né. Et en cas d'hypothyroïdie, le traitement par quelques gouttes journalières d'hormones thyroïdiennes est commencé dès les premiers jours de la vie et le développement se fait de façon normale. La seule contrainte de l'enfant sera de prendre ce traitement à vie puisque sa thyroïde ne fonctionne pas.
Ah là là !
Mais oui, c'est pas très drôle, mais c'est quelques gouttes à prendre dans l'enfance, un comprimé quand on est adulte et on mène une vie normale. En ayant un développement intellectuel et physique normal.
C'est
un moindre mal.
Oui.
Alors, comme nous l'avons dit...
Et alors, il y en a beaucoup qui ont cette maladie.
1 sur 3500 naissances en moyenne.
Ah, c'est quand même beaucoup. 1 sur 3500.
1 sur 3500.
Ouais.
C'est la moyenne.
Et on ne sait pas à quoi c'est dû.
Non,
parce que j'imagine que les parents qui ont un enfant comme ça, ils doivent essayer de voir si ça pourra se passer pour un...
La cause n'est pas connue. Et comme je vous le disais, ce n'est pas héréditaire. Donc c'est accidentel.
C'est accidentel.
Pourquoi? Je ne sais pas. A contrario, donc, cette glande peut fonctionner trop et entraîner ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie ou thyrotoxicose. L'hyperthyroïdie est donc liée à l'élévation des hormones thyroïdiennes dans le sang, comme l'hypothyroïdie liée à une atteinte primitive de la glande. La principale cause est encore une fois une maladie auto-immune qui est la plus connue, qui s'appelle la maladie de Basedow.
Basedow, c'est un Américain ?
Là, vous me posez une question piège, je ne crois pas, mais je ne sais pas.
En fait, c'est quand le papillon de l'aile.
Oui. Les cellules thyroïdiennes sont stimulées par des anticorps qui activent les récepteurs à TSH et qui vont entraîner une surproduction d'hormones. C'est-à-dire que là, l'organisme produit beaucoup trop de stimulation et la glande s'emballe.
Alors vous-même, vous palpez pour voir s'il y a un goitre ?
Oui, mais il n'y a pas que des gloîtres dans l'hyperthyroïdie, donc c'est pour ça que je vais vous dire d'abord toutes les causes et nous verrons après les...
D'accord.
Il existe également ce que l'on appelle des nodules toxiques ou gloîtres multinodulaires. Il peut exister une surcharge iodée, alors suite à une administration de produits de contraste de radio ou à certains médicaments comme l'amiodarone, cordarone, que l'on utilise pour des troubles du rythme cardiaque et qui contient de l'iode. Donc dans ce cas-là, on va bien sûr surveiller régulièrement la thyroïde. Il peut y avoir une libération d'hormones par destruction des vésicules de la glande suite à une inflammation ou à une pathologie virale. Ça peut être transitoire.
Ou ça veut dire que...
Une infection virale détruit une partie des glandes qui libère de l'hormone. Il y a une hyperthyroïdie. Quand la virose guérit, ça guérit. Ou une pathologie iatrogène, donc due à un traitement. C'est-à-dire, si on a traité une hypothyroïdie par trop de médicaments, on va passer en hyperthyroïdie. À ce moment-là, le traitement est simple, on réduit un petit peu la dose.
Non, on n'arrête surtout pas.
On réduit un petit peu la dose et tout rentre dans l'ordre. Alors, vous me demandiez tout à l'heure à quoi on reconnaissait l'hyperthyroïdie.
Oui.
Donc, dans la maladie de Basedow, il y a présence d'un goitre, c'est-à-dire d'un gonflement visible de la glande, qui est visible à l'œil nu, qui est palpable, on le sent bien quand on palpe le cou, qui est vibrant quand on le palpe, c'est-à-dire qu'il bouge.
Mmh.
Et quand on met le stéthoscope dessus, on entend un souffle vasculaire.
Ah oui.
Alors il y a...
Vous en avez rencontré beaucoup ?
Oui, beaucoup non.
Parce qu'il y a des régions où il y en a plus que d'autres. Vous n'avez pas remarqué ?
Non, pas... Donc il y a comme signe une exophtalmie, c'est-à-dire que les yeux semblent sortir des globes oculaires, avec un regard particulier des yeux qui sont secs et qui picotent. Un amaigrissement rapide alors que l'appétit est conservé. Les gens mangent normalement et maigrissent. Une tachycardie, accélération du rythme cardiaque, même la nuit, alors que normalement le rythme cardiaque ralentit la nuit. Un tremblement rapide et fin des mains. Une faiblesse musculaire, des bouffées de chaleur qui sont totalement différentes de celles de la ménopause, puisque ce n'est pas une bouffée aiguë, c'est des bouffées de chaleur permanentes. Une sensation donc de chaleur et de soif, une nervosité, irritabilité, émotivité, de la diarrhée,
alors qu'on avait
de la constipation dans l'hypothyroïdie. La peau est chaude et moite et les cheveux sont cassants. Là encore, le diagnostic va être fait par une prise de sang qui, dans ce cas-là, montrera la TSH, donc ce qui est produit par l'hypophyse, qui va être très très basse, voire indosable, puisque les hormones thyroïdiennes circulantes sont très importantes. L'hypophyse essaie de ralentir la production, mais n'y arrive pas. À ce moment-là, on va faire des examens complémentaires, une échographie pour vérifier les éventuels nodules, leur taille, l'aspect des contours. S'ils sont supérieurs à 4 cm ou irréguliers, ils peuvent être malins, donc être un cancer de la thyroïde. Nous en reparlerons. On peut faire une scintigraphie avec de l'iode radioactif qui va distinguer des nodules dits chauds, c'est-à-dire ceux qui fixent l'iode, qui sont plutôt de bons pronostics, et des nodules dits froids qui ne fixeront pas l'iode et qui, là, sont plus suspects de pathologie maligne. On peut être amené à faire une ponction à l'aiguille pour étudier les cellules de la thyroïde. En l'absence de traitement, cette maladie pourrait s'aggraver, donner des signes cardiaques importants avec de l'hypertension, insuffisance cardiaque, des troubles oculaires graves et des troubles psychiques.
Oui, en fait, c'est la base de tout.
Oui. En cas de maladie de Basedow...
Et vous-même, docteur, c'est que vous pensiez à ça quand il y avait des dérèglements Alors, chez des patients.
L'hypothyroïdie lente est un petit peu difficile au début à penser. L'hyperthyroïdie, on y pense en général assez facilement, surtout si c'est une maladie de basse dos, parce que dès que le patient rentre dans notre cabinet, on voit le goitre.
Ah ben oui.
Et donc, comme en général, les signes qui s'y associent sont assez parlants, c'est pas très difficile sur le plan diagnostique.
Mais alors, le patient, il s'est regardé dans la glace. Est-ce qu'il y pense la plupart du temps?
Il n'est pas médecin. Non. Il s'inquiète, il vient nous voir et on lui dit. Mais non, rarement. Rarement. Parce que c'est pareil, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Ça provient. C'est plus rapide comme installation que l'hypothyroïdie, mais c'est pas brutal. Donc, le traitement pour la maladie de basse dos va reposer sur ce qu'on appelle des antithyroïdiens de synthèse, donc des médicaments qui vont freiner la thyroïde. Bon, ça s'appelle le néomercazole ou carbimazole. On va surveiller, bien sûr, les prises de sang pendant 18 mois. Et si la maladie récidive, il faudra opérer ou détruire une partie de la thyroïde avec de l'iode radioactif.
Et vous étiez plutôt partisan de quoi ?
Ah, partisan de rien. Un protocole de traitement qui est défini. C'est d'abord, quoi qu'il arrive, 18 mois de traitement par les antithyroïdiens. Si c'est suffisant, on ne fait rien d'autre.
Oui.
On ne fait la chirurgie que si on est obligé.
Il y a beaucoup de cas ?
Pas énormément. Je n'ai pas les chiffres, mais pas beaucoup. Si on est en présence d'un goitre multinodulaire ou de résistance, à ce moment-là, ce sera de la chirurgie. Et évidemment, après, comme on aura enlevé une bonne partie de la thyroïde, on se retrouvera en hypothyroïdie. Donc ça nécessitera un traitement à base d'hormones thyroïdiennes comme les hypothyroïdies.
Oui,
bon.
Ça.
De toute façon, on commence toujours par un traitement médical, sauf dans certains cas de cancer, mais nous en reparlerons à une autre occasion.
Oui. Et en fait, vous avez eu plus de cas de hyper ou de hypothyroïdie ?
Je pense peut-être un peu plus d'hypothyroïdie.
Oui. Et le patient est affolé quand vous lui dites ça ?
Je pense qu'il est moins affolé que quand on prononce certains mots,
oui,
comme le mot cancer.
Oui, c'est ça.
Mais ce qu'il faut, c'est prendre la précaution de bien lui expliquer que ce sont des pathologies qui sont très grave si on ne les soigne pas, mais qui se soigne et qui s'équilibre très bien.
Oui.
Ce qui est plus difficile à faire admettre, c'est que ce sera un traitement à vie.
Oui. Eh bien, un grand merci, docteur Roussel. Je vous incite, chers auditeurs, à nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. À bientôt pour une autre émission, docteur Roussel.
Au revoir, Christiane Blum.